Marvin, et toi, mon gars, qu'est-ce que t'en dis?
Moi, vous savez, j'ai aucune opinion.
Arrête tes conneries, t'en as forcément une. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté...
Oh, le con, Vincent, mais t'es malade.
Merde, quelle chérie. Oh putain, le con, j'ai buté Marvin.
Libre Radio, la radio qui vise juste.
Comment est-ce qu'on se défend de l'influence extérieure, de l'influence de la, de, du mass média, du média de masse, du je sais pas, je pose cette question parce que récemment nous parlions avec une personne rwandaise et elle nous disait que les adolescents, comme ça, enfin je veux pas faire de généralité, mais regardaient le cinéma américain avec internet et tout et aspiraient d'une certaine manière.
On essaye de pas regarder les films porno.
Non, mais je veux dire, dans ce sens où il y a. Voilà, comment est-ce que ces jeunes personnes qui traversent une période de guerre et certainement, justement, comme tu l'as dit, de difficultés quand même, parce qu'il y a des choses qui manquent quand même quand on est dans cet état-là, eh bien, ces personnes-là, eh bien, comment est-ce qu'elles traversent ce truc-là? Est-ce qu'elles n'ont pas envie, peut-être justement, est-ce qu'elles aspirent pas à une sorte de rêve?
Elles aspirent. Tout à l'heure, j'ai fait une plaisanterie, mais elle n'est pas bénigne comme ça. C'est vrai qu'il y a toute une approche subliminale, il y a toute une technique subliminal. On parle du biopouvoir, de la biopolitique tout à l'heure. On arrive à un système où on utilise les besoins de l'être humain les plus naturels, les plus purs contre lui-même, le besoin d'évolution, le besoin d'amour, le besoin de partage, le besoin de communication, le besoin de solidarité. On est arrivé au point qu'on utilise ces besoins fondamentaux contre l'être humain de lui-même. Mmh. Et effectivement, c'est pour ça tout à l'heure je disais il faut une biorésistance. Et effectivement, c'est extrêmement dur.
La résistance, elle est présente à tous les jours parce qu'il y a des combattantes et des combattants. Mm-hmm. Mais elle n'est pas que là.
Non, elle est spirituelle, elle est subjective, elle est morale, elle est intellectuelle. Je veux dire, tu essayes d'être toi-même, tu essayes de garder la pureté de ton âme, je veux dire, de ton être, etc. Elle est avant tout là. Je veux dire, tu essayes de laisser la nature telle qu'elle est, de respecter ta propre nature, quoi.
Comment réagissent les gens à l'extérieur, justement, les pays voisins, par exemple? On a vu en Turquie, par exemple, est-ce qu'il y a des personnes qui sont conscientes de ces enjeux-là et qui ont envie de dire, nous, même si peut-être qu'elles ne le disent pas parce que la situation est telle qu'on ne peut pas le dire, mais y a-t-il des appuis, même dans ces pays, qu'ils soient la Syrie, la Turquie, l'Iran?
Mais en Turquie, vous avez une grande partie, vous avez 25 millions, 30 millions de Kurdes en Turquie. L'émergence de la mouvance kurde, elle se situe aussi en Turquie. Il y a aussi un combat très acharné en Turquie, qui a une autre forme, qui n'a pas pris la forme qui a lieu en Syrie, etc. Il y a une guérilla très acharnée que Erdogan n'a toujours pas réussi à vaincre, malgré tout. Ouais. Il a réussi à vaincre tous les opposants, toutes les forces démocratiques, etc. Mais pour ce qui est de la guérilla kurde, malgré tous les moyens mis en œuvre, il n'a pas réussi à les vaincre. Et effectivement, à la base, vous avez une base militante, une base qui est convaincue à cette idéologie, à cette philosophie, au paradigme du confédéralisme démocratique. Donc, il y a un appui comme ça permanent. Puis il ne faut pas oublier que bon nombre de combattants aguerris, de dirigeants à la guérilla au Rojava aussi, ont aussi combattu en Turquie ou sont originaires de la Turquie. Donc il y a un certain échange aussi en Iran, aussi en Irak.
Oui, la lutte armée, c'est quelque chose, j'imagine, d'extrêmement compliqué. On y laisse des plumes. Des gens meurent, des gens sont blessés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se discute au sein des combattantes et des combattants au Rojava en disant on est dans cette situation-là. Y aurait-il peut-être d'autres modalités de lutter qui pourraient survenir? Et je te pose la question également à toi, Noé, au sein des IWW, est-ce que justement la lutte armée ou des formes de lutte extrêmes comme celle-là ont surgi à l'esprit de personnes ou ont été évoquées à un certain moment ou pas?
Alors, tu veux commencer ou est-ce que je fais un petit chapitre
fais,
puis après
tu fais, parce que j'ai déjà trop parlé.
On va laisser reprendre tout.
Non, on peut lutte armée, pas fort. Alors un des principes, là il faudrait que je vérifie ce que je dis parce que je suis pas sûr et certain de ce que je dis, mais il me semble qu'un des principes des WW, c'est de faire mal au capital le plus possible par des moyens non violents, mais qui atteignent le capital à la bourse, qui sont la grève, qui sont toutes les techniques de sabotage, qui peuvent aller très loin. Hein. Je veux dire, non violent, ça ne veut pas forcément dire non violent envers les machines et les stocks et compagnie. Hein. Je veux dire, on peut brûler un stock ou brûler une usine ou je sais pas quoi. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Après, alors de nouveau, je suis pas encore spécialiste de l'histoire du syndicat, mais il me semble que dans la lutte syndicale, il y a quand même un danger à passer à une lutte armée, surtout quand on est un syndicat de masse, comme l'a été l'IWW à une certaine période, entre les années 1910 et 1930, il y a eu des périodes avec beaucoup de monde. Je ne sais plus les chiffres, il faudrait que je potasse un peu tout ça. Je pense qu'au niveau de l'État et tout ça, c'est compliqué de passer à la lutte armée sans être attaqué frontalement. Par contre, ben, il y a quelque chose qui s'est fait pendant la guerre d'Espagne, c'est qu'il y avait des miliciens dans les brigades internationales qui ont été envoyés par les IWW. Enfin, il y avait des miliciens internationaux, IWW, un certain nombre, qui sont venus d'Amérique. D'ailleurs, je crois que c'était une des seules organisations américaines qui a envoyé...
Des
combattants en Espagne. Donc je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas un problème de... Je pense que c'est plutôt un problème stratégique. Je pense que ce serait un très mauvais choix actuellement comme à d'autres périodes à l'intérieur des systèmes capitalistes où l'État a ce pouvoir. Je pense que dans l'État où on en est, ce serait
prêter le flanc d'une certaine manière. Et puis...
ce serait suicidaire dans l'état du rapport de force et dans l'état des consciences aujourd'hui. Ce serait se mettre tout le monde à dos. Après, de nouveau, je parle en mon nom et je sais pas exactement. Enfin, ça mériterait d'en discuter plus
approfondissement, mais on aura l'occasion d'approfondir le sujet. Là, on ne fait qu'égratigner. Et puis, c'est ce qu'on disait. On essaie de poser quelques jalons pour que justement les personnes qui nous écoutent peuvent également ensuite produire une réflexion. C'est le but de la manœuvre, c'est de se remettre en question et puis de produire du sens ensemble. Qu'en est-il alors justement de cette lutte armée qui a cours au Rojava ?
C'est simple. Je veux dire, on part du principe philosophique que tout organisme vivant dans la nature a un mécanisme d'autodéfense. Une volonté de préserver, dans sa vie, de survie, que par conséquent, on voit la société aussi, ou la commune aussi, comme un organisme vivant. On ne perçoit pas, on ne conceptualise pas le monde existant extérieur, on le découpe autant en mille morceaux, ce n'est pas une technique qu'on apprécie, on sait qu'elle prévaut beaucoup dans les universités actuelles. On a plutôt tendance à voir la chose de manière beaucoup plus biologique, comme un ensemble. C'est aussi un organisme vivant. Donc, dans le système de confédéralisme démocratique, les communes, les gens formant ces communes, ce confédéralisme démocratique, ont le droit à l'autodéfense, de se défendre. Dans ce cadre-là, on part du principe que toute lutte armée ou toute défense armée doit être basée sur la philosophie de l'autodéfense et non pas dans un autre contexte. À ce sujet-là, j'aimerais préciser une chose. On sait que dans les théories classiques, dans les théories révolutionnaires classiques, dans les mouvements révolutionnaires classiques, ce dont il était le plus question, c'était de prendre le pouvoir. Ce qu'on remet en question radicalement, il n'est pas du tout question que qu'une organisation prenne le pouvoir. Ce dont il est question, c'est de remettre le pouvoir au peuple. Et ce n'est pas de prendre le pouvoir au nom du peuple, mais au moyen d'une organisation quelconque.
Tout à fait.
C'est une distinction très nette qu'il faut faire. Absolument. À partir de là, on peut répondre, est-ce qu'il faut la lutte armée ou pas, etc. Tu peux placer cette question-là que dans ce contexte-là. Mm-hmm. Parce que si tu places la question par rapport à la lutte d'une organisation, d'un syndicat, d'un parti, etc., pour la prise du pouvoir, je veux dire, pas où elle est la différence dans ce cas-là. C'est quel clair. Est l'intérêt
on finit par reproduire.
Exactement.
Tout à fait. Mais ça veut dire que les combattantes et combattants, je dis bien combattantes et combattants, puisque les femmes sont également au front. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que le fait de passer par la lutte armée, ça implique effectivement un choix éthique. Et là, on vient de, mais pas que, tu viens de l'illustrer. Mais ça implique également une économie, une industrie, une formation. Le fait de rendre des personnes disponibles pour ceci, ça va les soustraire finalement à d'autres tâches, peut-être qui seraient également utiles. Et alors, je me dis justement, à quel moment et comment est-ce qu'on en discute? Et est-ce qu'on en discute à tout moment? Le bon ratio entre la lutte armée, qui va faire cette lutte armée, qui va plutôt produire des choses qui vont servir à la lutte armée, enfin toute cette organisation qui est nécessaire finalement.
Les gens qui participent à la lutte armée, de manière générale, c'est des gens qui sont volontaires.
Même si
à un moment donné, ils peuvent hésiter, puis ils peuvent en avoir marre. Après, ils ont quand même une période d'attente.
Oui.
Il faut être honnête. Il y en a avec qui ça va très vite, d'autres qui ne sont pas très clairs. Ils disent, est-ce qu'on laisse tomber, est-ce qu'on passe à autre chose, etc. Donc, ils leur laissent une certaine période de réflexion. D'une manière générale, si tu n'as pas envie de combattre, je veux dire, tu ne peux pas aller rejoindre une guérilla dans des conditions extrêmement dures, etc. Peut-être dire juste parce que tu as le petit chef qui te commande, qui peut te contrôler, ce n'est pas possible. Je veux dire, il faut aussi cette motivation intellectuelle, psychique, psychologique, etc. pour mener cette lutte. Après, effectivement, il y a des sacrifices à faire. Il y a énormément de sacrifices à faire. Bon, c'est vrai que le mot sacrifice... il est relatif, on fait sacrifice de quoi? Je veux dire, la vie, c'est la vie. Après, il y a même la notion de la vie, c'est une construction sociale. Qu'est-ce qui est physique, qu'est-ce qui est métaphysique, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas vivant, qu'est-ce qui fait partie de ce monde, qu'est-ce qui fait partie de l'autre monde, combien de monde il y a? Ça, c'est des questions que tu te poses, que tu ressens quand tu mènes cette lutte.
Bien sûr.
Tu es vraiment là-dedans, tu es vraiment questionnement existentiel. Tu ne peux pas te permettre de voir le monde comme ça, comme le voit tous les jours, quoi.
Ouais.
Je veux dire, c'est...
Les décisions au sein même de la... Parce qu'on, refaire l'analogie avec la guerre d'Espagne, on a vu des situations compliquées, effectivement, quand les brigades internationales arrivent, par exemple, et qu'à ce moment-là, certaines... on pourrait prendre l'exemple du POUM, avec George Orwell, qui en a fait partie, mais il y a eu des moments où des processus décisionnels qui avaient cours au sein de... certaines colonnes, Colonna Durruti, Yascas, toutes celles-là, où il y avait une pure autogestion, ont été remises en question. Et comment ça se passe au Rojava, quand les personnes partent combattre, comment est-ce qu'on prend les décisions stratégiques qui vont dire que nous allons intervenir de cette manière-là, sous cette forme-là, dans cette zone-là et à ce moment-là, enfin, tout ce processus-là, de quelle manière est-ce que... Il est mis en place.
Il faut être clair, hein, dans une structure militaire, où il y a quand même une certaine hiérarchie. Il ne faut pas confondre une structure militaire qui est obligée d'exister en raison des conditions extérieures, par besoin d'autodéfense, avec une structure sociale. Bien sûr, il y a une précision qu'il faut donner. Ça ne veut pas dire que la personne qui commande, elle commande par... autoritarisme ou par besoin de dominer ou je ne sais pas quoi, elle va commander juste par expérience, par un peu plus de connaissances, mais pas par pas d'une manière à s'approprier le travail des autres. Il y a une différence à faire, mais il y a une structure hiérarchique, il y a des débats internes. Quand tu dois prendre une décision stratégique, les décisions stratégiques ils s'arrangent même de manière à consulter même la base. Donc,
donc il y a vraiment un effort qui est fait ce point de vue-là.
Ils informent la base, ils s'arrangent pour vraiment savoir ce qui se passe à la base, je veux dire au niveau local, à la plus petite unité, pour savoir ce qui se passe, quelles sont les tendances, etc., quels sont les désirs, etc. Je veux dire, ils ne prennent pas comme ça, mais Mais au final, vous avez une structure, vous avez un débat interne, puis après, les décisions sont prises.
D'accord. Oui, je pose ces questions-là parce qu'effectivement, du point de vue un petit peu comme ça, libertaire, autogestionnaire ou quoi, c'est toujours un petit peu délicat, effectivement, quand on parle de troupes, d'armées, de systèmes un peu, justement, hiérarchiques et militaires et tout. Mais évidemment, on comprend bien la situation.
Mais après, cours, attention, hein. Après, il faut faire aussi la distinction. Vous avez différents cantons au Rojava. Et quand ils sont indépendants aussi. Encore une fois, il faut faire une différence entre ce qui est la lutte contre l'État islamique, la lutte militaire, les structures militaires, et les communes, les différents cantons, etc., qui sont autogérés, qui s'autogèrent, etc. Vous avez des tribus aussi qui s'autogèrent. Vous avez aussi une partie arabe, vous avez aussi une population arabe, etc., qui s'autogère aussi dans cette gestion du confédéralisme démocratique. Donc, vous n'avez pas un schéma comme ça, hiérarchique, précis, ça n'existe pas.
C'est exactement à ça qu'on voulait en venir. Et justement, en disant, alors ça, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'était l'idée de ce début radiophonique concernant le Kurdistan, ce serait d'arriver à effectivement déjà se tracer le contour, la silhouette de la situation générale, et puis effectivement ensuite de comprendre comment est-ce que ce confédéralisme démocratique a cours justement au travers de ces cantons, de ces différences, des singularités qui ont cours dans chacune d'elles, sur des notions qui sont effectivement un petit peu délicates pour du point de vue libertaire, mais également du point de vue pas anard, hein, je veux dire, concernant également la discipline, enfin des choses comme ça. Effectivement, le travail de police, c'est un travail de police à cours au sein des forces armées et au sein des cantons. Comment ce travail de police-là a cours? Est-ce qu'il a cours ou est-ce qu'on n'en a pas besoin?
Comment il ça a passe cours.
Et alors ça, comment est-ce que c'est organisé? Parce qu'on l'a vu, la police, effectivement, pour nous, sous nos contrées ici, on a un problème actuellement, pour le moins en Suisse et en France, dans la violence, hein, qui s'exprime du côté de la police.
Mais je vais répondre de cette façon. De toute façon, le système qui est au Rojava ne représente que 30-40% la réalisation du projet fondamental de Abdullah Öcalan. Oui. Donc, de toute façon, ce n'est pas encore un système idéal. Malgré tous les efforts, malgré toutes les choses bien qu'on peut en dire, qu'on en dit, qui sont réelles, malgré tout, c'est qu'on n'en est qu'à 30 à 40%. Donc, effectivement, il y a une police, parce qu'on est aussi limité au Rojava, parce qu'il y a les forces extérieures, il y a le contexte international, etc. Il y a les islamistes qui vont et qui viennent, etc. Et ce n'est pas idéal du tout, parce que normalement, dans une société idéale, effectivement, la police, comme ça, hiérarchique, ne devrait pas exister. Tu peux avoir une... on dit autogestion, autogouvernement, tu peux choisir des membres. C'est quand même aussi des membres qui sont choisis. Hein. Mm-hmm. Ils sont choisis pour une période donnée, puis après, ils sont plus police. Hein. Ce n'est pas des policiers professionnels, attention. Hein.
Ça change déjà pas mal.
Il faut faire une distinction, ce n'est pas une carrière.
Voilà.
Voilà quoi. Il y a déjà une distinction à ce niveau-là. Après, il y a toute une recherche, il y a toute une démarche, mais c'est quand même encore les assemblées qui décident qui va faire partie du corps de police, etc. Et ce n'est pas choisi comme ça, quoi.
D'accord. Donc ça, c'est bien. Il va falloir qu'on revienne sur justement toutes ces structures civiles qui permettent justement de prendre des décisions et d'arriver à ce que les choses s'organisent. Mais quoi qu'il en soit...
Mais il y a encore beaucoup à faire, hein, que ce soit clair. Hein. Mais pas seulement de notre côté, du côté international aussi. Hein. On n'est pas comme ça indépendant du reste, hein, je veux dire. On est quand même tributaire de la réalité internationale.
Et alors justement, du point de vue international, comment est-ce que les relations se font et avec qui est-ce qu'elles sont peut-être privilégiées quand on est au
Rojava? Avec les socialistes, les anarchistes, les libertaires, les communaux, etc. Je veux dire.
Ouais, mais est-ce qu'il y a la volonté, comme je sais pas, on pourrait prendre l'exemple du Kosovo, où il y a à un moment donné une volonté d'avoir une sorte de reconnaissance internationale un peu institutionnelle. Voilà, parce que stratégiquement, c'est ça qui est mis en avant. Est-ce que ça, au Rojava...
Mais on ne veut pas un État-nation. On n'en veut pas, que ce soit clair. On est contre.
Ouais.
On est contre cette idéologie. On est contre cette... On n'en veut pas. Même si on nous en fait cadeau, on n'en veut pas. On lutte contre ça.
J'ai bien compris. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas non plus de la reconnaissance d'autres États-nations? Parce que finalement...
Mais les États-nations ne sont que des constructions sociales pour dominer les gens. Mmh. J'ai donné l'exemple de la Suisse, j'ai été critique.
Oui.
C'est peut-être l'un des meilleurs exemples en réalité. Mais bon, tu prends les autres nations, tu prends la France, l'Allemagne ou je ne sais pas où, etc. C'est des constructions sociales. Je veux dire, c'est une idée virtuelle. Tu crois appartenir à une nation. Quelle nation ? C'est quoi ? On t'apprend une histoire, etc. On te formate l'esprit, on te bourre le crâne, une idéologie, un système de pensée, un pareil, puis tu n'arrives pas à sortir de l'extérieur de ça. Tu n'arrives même pas à penser. Ouais. Tu n'arrives même pas à sentir. Je veux dire, on ne te laisse même pas sentir. On dit attention là-haut. On te met les barrières, etc. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Une nation, elle doit être démocratique. Une nation, tu ne peux pas baser une nation sur un peuple, sur une race, etc. Ce n'est pas possible.
Absolument. Oui, tout à fait.
L'humanité est une nation.
Bien sûr, non, on voit le piège du nationalisme et du patriotisme.
Ça a répondu à un moment donné aux capitalistes, aux besoins du capital, aux besoins de la bourgeoisie nationale, etc. Il y a eu l'idée de l'État-nation, etc. Alors qu'avant ça n'existait même pas les nations. C'est très récent.
C'est très récent, contemporain, bien sûr. Mais on voit les dégâts que ça fait, et puis la manière dont c'est prégnant, dont finalement ça embarque tout, ça avale tout finalement. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre là au Rojava pour ces prochains temps ? Qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qui va s'y passer là ? Qu'est-ce qu'on est en droit de s'attendre là-bas pour les personnes sur place ? Est-ce qu'il y a vraiment cet espoir renouvelé qui continue et qui avance ? Ou est-ce qu'il y a des moments de doute ? Est-ce qu'il y a des moments délicats de...
Il y a des moments délicats parce qu'il y a différentes forces en jeu. Vous avez les États musulmans, vous avez différentes forces qui sont en lutte. Il y a une lutte par procuration. Il y a une guerre par procuration. Tout le monde essaie d'être influent. Il y a la Turquie qui essaie d'intervenir et qui intervient, qui veut intervenir à l'Idlib. Vous avez toutes les forces islamistes qui sont actuellement concentrées dans cette région. Et les Kurdes avec les Arabes sont rentrés à Raqqa. La moitié de la ville de Raqqa, qui est le fief de l'État islamique, a été libérée, mais il reste encore l'autre moitié. Après... Après, c'est aussi une question de, encore une fois, de politique, de conceptualisation, d'appréhension de la vie. Je veux dire, on essaye aussi d'avoir une politique ou d'agir conformément à une politique de manière à influencer tout le Moyen-Orient. On ne voit pas la lutte ou la révolution du peuple kurde juste limitée au Kurdistan. On essaye d'influencer toute la région. Ce n'est pas un hasard si actuellement les forces formant un guerrier en Syrie est à 40% arabe. Je veux dire, elle n'est pas seulement constituée des Kurdes. On n'a pas cette vision bloquée où c'est les Kurdes qui doivent lutter ou qui doivent. Ce qui nous importe, c'est justement cette ouverture d'esprit, cette idéologie, cette politique, cette manière, ce paradigme, cette ouverture d'esprit. Puis par ça, c'est vrai qu'on essaye d'influencer la région. C'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui fait que, bon, il y a des forces extérieures qui nous soutiennent parce qu'ils ont besoin aussi de cette approche qui peut permettre un changement et qui peut diminuer les monarchies du Golfe, etc., les États-nations très rigides du Golfe. Bien sûr, eux aussi, quand ils font ça, ils ont leurs propres calculs. Je veux dire, évidemment, le capital, il a pas de l'argent, ça n'a pas de foi, je veux dire, ça n'a pas de religion. On s'en fout.
Faut-il souhaiter ou craindre la contagion pour vous ? Alors, il faudrait que ça se propage, effectivement. En Syrie, on peut dire que, justement, il y a là réellement quelque chose qui pour les Syriens, a trait à un espoir, quelque chose de nouveau vers lequel on peut aller.
Oui.
Ouais. Et puis, les pays voisins, la Palestine, les pays un petit peu plus loin, typiquement la situation en Palestine.
Au niveau des intellectuels, il y a un certain débat, même s'il y a une certaine résistance, parce qu'ils ont trop tendance aussi à penser qu'on collabore beaucoup avec les Américains, donc avec les Juifs. Ça aussi, c'est des constructions sociales, je veux dire. Voilà, quoi. Tout ce qui se passe, on dit que c'est des Juifs ou c'est des Américains ou je sais pas quoi. Je veux dire, les premiers qui vendent du pétrole aux Américains, ils critiquent les Américains alors que c'est eux qui collaborent le plus avec les Américains. Je veux dire, non, mais c'est un délire. Je veux dire, tu prends l'Arabie Saoudite, tu prends l'Iran, tu prends l'Irak, etc. Quand tu as eu tous ces extrémistes islamistes, etc. Je veux dire, quand tu arrives à la parole, quand tu vois les intellectuels, etc. Bon, ils sont très anti quelque chose, anti-américain ou je ne sais pas quoi, etc. Mais c'est les premiers à leur vendre du pétrole, à faire du commerce. Tu prends la Chine qui se prétend communiste, elle a un investissement de près de 3 000 milliards d'investissements en bon état chez les Américains. Mm-hmm. Je veux dire, mais ils sont soi-disant communistes. Alors, tous ces termes, on arrive à la même notion de l'État-nation, et on joue avec ces concepts. C'est l'Amérique, mais ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Même l'Amérique, elle n'est pas indépendante. Ça, c'est pour rigoler, ça. Mmh. Tu prends l'Américain moyen qui est endetté jusqu'au cou, je crois qu'on dit ça comme ça. Je veux dire, il te propose des crédits jusqu'à l'infini, etc. Parce que le capital, pour tourner, il faut la confiance. Hein. Il faut que tu fasses confiance au système. Bien sûr, ben oui. Pour que l'argent il s'auto-crée, pour que les banques impriment des biais. Le biais, ce n'est rien d'autre que la confiance que moi, je mets à ces banques-là, etc. Alors, le système américain pour tourner, bah, voilà, il opprime comme ça que le petit américain, comme ça, je te fais crédit à partir du moment où tu es américain, je te donne tout ce que tu veux. Toi, tu t'endettes. Comme ça, toute ta vie, toi, tu lui dois quelque chose. Mais ça, on ne va pas te le dire. On va dire, mais l'autre con, là, qui est de l'autre côté, il voit de ça. Ah, mais c'est les Américains. Ah, mais c'est l'Amérique. Mais espèce de... Je ne sais pas quoi. Mais le système, il y a un système qui est établi.
C'est clair.
C'est le système qui soit pour les Chinois, qui soit pour les Moyen-Orient, tout ça, c'est le même système. Le système, tu peux dire qu'il est américain, mais on devient aussi américain par conséquent.
C'est clair, oui. Là, effectivement, comme tu le dis, il y a des codes qui sont mondiaux et auxquels on souscrit, au moins par défaut. Et là, effectivement, il y a quelque chose d'essentiel qui joue au Rojava, ça, c'est certainement le fait.
Ce qui me gêne, pourquoi je précise ça? Parce qu'on joue trop avec des notions comme ça.
Absolument. Quoi qu'il en soit, nous, c'est notre rôle également d'essayer justement de se contre-informer par rapport à ça. On arrive juste au bout pour aujourd'hui de ce premier épisode. J'insiste, j'aimerais bien que ce soit que un des premiers épisodes parce qu'il y a toutes ces notions-là qu'il faudrait déconstruire et ça nécessite, à mon sens, que l'on y revienne dessus point par point, j'ai envie de dire. Mais juste pour en terminer là aujourd'hui, j'aimerais juste vous demander comment est-ce que, selon vous, on arrive à justement se contre-informer, à sortir de ce paradigme, de cette praxis, à faire un pas de côté pour se distancier de ce qui se passe et à se mettre dans une sorte de retrait critique pour pouvoir justement se mettre en marche vers quelque chose d'autre. Selon vous, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Parce qu'effectivement, alors ça se fait au Rojava, mais à quel prix? Dans le sens où les gens ont pris les armes, des gens se sont mis ensemble et s'investissent dans cette utopie concrète. Selon vous, comment est-ce que d'ici, est-ce qu'on arrive à une forme de résultat ou de choses qui sont similaires de ce qui se passe au Rojava? Comment la résistance peut-elle prendre forme ici en Suisse, dans le cœur, comme le disait Ernesto Che Guevara, dans le cœur de la bête? Ramazan ou Noé, qui veut commencer?
Moi, je pense que... Noé. Comment est-ce qu'on arrive à se contre-informer et à résister? Et je pense que c'est très, très dur ici, dans le cœur de la bête, parce qu'on est peut-être très gâté d'une certaine manière par le système. Et du coup, peut-être qu'on est les moins critiques et les moins... j'ai l'impression qu'il y a très peu d'esprit critique ambiant, quoi, qu'il faut avoir une chance, il faut être chanceux pour tomber dans l'esprit critique, et que ce qu'il faudrait faire, à mon avis, mais ça c'est vraiment mon avis à moi, mais c'est qu'il y a un vrai travail d'éducation critique, d'éducation à l'esprit critique qui est à faire de toute urgence, parce qu'on toutes ces choses là enfin moi ça me fait énormément plaisir tout ce que tu dis à propos des états-nations, à propos de ça, mais ça c'est inaudible pour la majorité des gens ici. Mais même des gens qui se considèrent comme étant progressistes, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, mais c'est des choses totalement inaudibles, et il y a une espèce de lacune critique terrible. Et je pense que un des premiers endroits où lutter ici, c'est vraiment diffuser l'esprit critique et diffuser les outils d'esprit critique. Moi, je veux dire, j'ai commencé le début, le premier pas de mon chemin militant, ça a été le petit, comment il s'appelle, petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Béhargeon. Mmh. C'est un truc, c'est un petit bouquin marrant, super quoi, mais ça, je crois que c'est vraiment moi ce qui m'a...
Ce qui a déclenché quelque chose, ben, une alerte. Hein.
Ça a déclenché des... Bon, après je me suis intéressé plus loin à l'esprit critique et tout ça, mais ça a déclenché aussi une espèce d'autonomie de la pensée. C'est prendre sa pensée en main, trouver les outils par soi-même pour peser les choses, pour sous-peser les choses. Et je pense que... Je suis peut-être un peu utopiste, mais j'ai l'impression qu'avec un esprit critique affûté, on arrive à des conclusions. Alors après, c'est peut-être très utopiste, mais que beaucoup de gens pourraient arriver à des conclusions proches des nôtres, mais qu'il y a un vrai problème de ce côté-là.
Donc vraiment, l'information, se contre-informer, l'accès, fabriquer des outils.
C'est plus que nécessaire, c'est urgent, quoi. Ouais. Et au niveau des médias en Suisse, je veux dire, c'est presque oppressant de penser aux médias suisses, quoi. Il y a une espèce de je sais pas, au moins en France, ils ont le canard enchaîné, quoi. Je veux dire, avec tous les défauts qu'il a, mais au moins, ils ont des médias... des médias, bon, on va pas dire que le canard enchaîné, c'est un média alternatif, mais un média déjà un peu critique. Voilà, ils ont... ils ont des médias critiques en Suisse. Waouh, qu'est-ce qu'on des médias. Bah, il y a Libre Radio, il y a moins, il y a quelques, il y en a quelques-uns, hein, mais c'est quand même encore des médias de niche,
ouais,
qu'il faut totalement diffuser un maximum et qu'il faut essayer de démultiplier. Mais je pense que là, il y a un vrai problème médiatique, un vrai problème. Enfin, je pense. On part de très 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 loin ici, et aussi parce qu'on est on a l'impression d'être dans une espèce de paradis de la démocratie, que ici de toute façon tout le monde vit bien, qu'on est très gâté, qu'il faut surtout pas chercher à penser plus loin, parce que ça peut aller que vers le pire. Et je pense que tu parlais des États-nations qui étaient des constructions sociales et tout ça. On vit en Suisse, j'ai l'impression, dans une légende nationale, mais à une dose, mais tellement forte qu'on la voit plus, quoi. Et je veux dire, en France, on est critique, on peut facilement se moquer des Français et dire avec toutes leurs histoires, la France, tout ça. Mais au moins, c'est prégnant, on le voit. On arrive encore à le voir pour le critiquer. Et je veux dire, c'est assez prégnant pour que un certain nombre de gens le voient et puissent en prendre conscience. En Suisse, on n'en est même pas à la prise de conscience. Je veux dire, le nombre de gens qui pensent que Guillaume Tell, c'est vraiment le début de la Suisse, mais je veux dire, c'est affolant. Et je veux dire, là, il y a moi, je... Ouais, je veux dire, il y a du boulot, quoi.
On a bien compris l'idée, voilà. Mais donc l'idée pour toi, c'est là vraiment le moment clé, le truc pivot, c'est là, c'est dans cette histoire d'information.
Je ne sais pas si je dirais le truc pivot, critique. Mais je pense que une des étapes, en tout cas principales, c'est acquérir une conscience critique, acquérir une peut-être une conscience de classe, si ça veut dire quelque chose, encore. Je pense que peut-être c'est quelque chose qui peut se faire à travers le syndicalisme aussi. Mmh. Après, il faut voir comment le faire. Il faut voir comment le faire intelligemment. Il faut voir si on arrive à toucher un peu des gens. Mais ouais, moi, c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment dans des médias. Ouais,
et comme tu l'as dit, au sein de syndicats, et justement, alors pour conclure, de ton côté, avant qu'on laisse le mot de la fin à Ramazan, eh bien, du coup, on peut lancer un appel aux personnes qui pourraient vous rejoindre au sein du groupe local des IWW. On le rappelle, c'est Industrial Workers of the World. C'est un syndicalisme révolutionnaire,
ouais,
inclusif, on peut dire, pour le moins.
Alors oui, ben nous, s'il y a des gens qui sont intéressés, alors c'est sûr qu'ils peuvent nous... Alors, on serait très contents de les accueillir. Alors, comment nous joindre ? J'ai pas les petits papiers sur moi.
Il y a la page Facebook, mais
il y a une page Facebook. Alors, pour l'instant, c'est beaucoup en allemand parce que la majorité du groupe suisse vient de Suisse alémanique. On essaie de construire petit à petit un petit groupe francophone. On est quelques-uns. On se réunit une fois par mois à Genève pour l'instant. Mais c'est vraiment c'est un début et c'est assez encourageant pour l'instant, vraiment, je trouve. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par un syndicalisme révolutionnaire, par des idées des syndicats, on va dire à l'ancienne, moi j'avais entendu un truc qui m'avait fait assez rire, c'est le capitalisme revient à une violence digne du 19e siècle. Il faudrait retourner à un syndicalisme du 19e siècle et à faire des vraies actions syndicales et pas simplement à s'amuser en réunion avec les patrons. Et je pense que dans l'idéal, c'est ce qu'on aimerait construire. Et on invite toute personne qui serait intéressée par un syndicalisme révolutionnaire. Donc, juste pour finir, faut préciser que ce n'est pas un syndicat anarcho-syndicaliste. Il y a des anarcho-syndicalistes dedans. Il y a il y a différentes composantes. Et le but, c'est pas de parler de... Enfin, comment dire ça ? Le but, c'est vraiment de construire un syndicat révolutionnaire avec les différentes tendances révolutionnaires en présence, plus qu'une niche anarcho-syndicaliste ou autre chose. Même si le syndicat en lui-même est basé sur des principes relativement libertaires quand même.
Très bien. Voilà. Je te remercie beaucoup, Noé. On va rappeler la page Facebook, c'est IWW Jam. Donc Industrial Workers of the World, Jura, Alpes et Mittelland qui désigne plateau.
Si vous nous écrivez en français, ce sera voilà, ça ira très bien aussi.
Très bien, super. Je te remercie beaucoup. Alors, Amadzan, pour en conclure aujourd'hui, parce qu'il fait chaud, alors on commence à... Enfin, je sais pas. Pour en conclure, pour ce premier épisode où on a essayé justement de tracer ces fameux contours du Rojava, donc de ce Kurdistan syrien et de ce qui s'y passe et des aspirations qui ont cours, eh bien, selon toi, voilà, comment depuis ici, et puis après, la dernière question, ce sera de te demander de quelle manière est-ce qu'on peut se solidariser avec justement les personnes qui sont en lutte au Rojava, notamment. De ton point de vue, comment est-ce qu'on se sort de ce paradigme qui nous engloutit et qui nous assiège et qui finalement finit par nous neutraliser ?
Il faut comprendre, d'un point de vue kurde, il faut comprendre aussi, c'est aussi une responsabilité qui nous incombe aussi. C'est triste à dire. C'est une responsabilité que nous sommes obligés d'assumer. Il se trouve qu'on a créé un certain système, qu'on a décidé ça, d'un certain système il y a 2 siècles en arrière, et que tout le monde sait que le système ne marche pas. Du plus riche au plus pauvre. Il ne faut pas croire que les gens qui sont riches, qui sont milliardaires, ils ne se posent pas de questions, ils sont tous des méchants, etc., et qui veulent voir que du sang, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, je veux dire, c'est pas... Mais il se trouve qu'on a créé un système, et ce système influence les sociétés, les groupes de sociétés, etc. Il y a toute une des dynamiques dans une société, vous avez différents groupes de pouvoir, etc., qui se créent, etc. Alors, basé justement un système qu'on a créé, des choix qu'on a fait, du capitalisme qu'on a fait il y a 2 siècles en arrière. Et ces choix qu'on a fait 2 siècles en arrière ne répondent plus aux besoins de la société au niveau mondial. Mais nos propres sociétés ici sont tellement impliquées, fonctionnent tellement de cette façon qu'un retour en arrière ou un changement comme ça fondamental n'est pas... Je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, parce que ça ne serait pas juste, c'est toujours possible. Mais il se trouve que cette mondialisation justement de ce système a fait en sorte que même cette responsabilité, elle incombe à d'autres sociétés. d'autres sociétés ont la possibilité, ont la chance de créer autre chose dans l'intérêt de l'humanité, de créer un autre modèle de société, un autre modèle de fonctionnement. Ils sont plus confrontés à la réalité de manière plus directe, de manière plus frontale, etc. Donc, ils ont l'obligation morale, éthique, humaine d'assumer cette responsabilité. C'est un plan. Le deuxième plan, ça ne veut pas dire qu'en Suisse, on ne peut rien faire. Non, si tu arrives à être honnête avec toi-même, à voir tes propres monstres, à te voir tel que tu es dans la glace, à voir justement, tu n'es pas aussi beau, aussi gentil que tu crois, il n'y a pas eu un guillaume tel, etc. Puis toi, tu es petit gentil, etc. Non, ce qui te donne à manger, c'est quand même les banques. Ce qui te donne à manger, c'est tout ce système international. C'est tout ce système mondial. Tu fais partie de cette réalité. Si tu n'as pas le courage d'affronter tes propres démons, tes propres monstres, déjà tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas un vrai humain, tu ne seras pas un vrai Suisse. On parle du langage du peuple. Moi, j'ai aucune haine, aucune. Voilà quoi. Je veux dire, tu ne seras pas toi-même. Le questionnement, il est simple. Mais si tu veux toujours te fuir, continuer de te fuir, te voir en grand, te crois beau, tout gentil, qui fait de mal à personne, qui est innocent, etc. Puis si les autres, c'est qu'ils sont méchants, s'ils ne me comprennent pas, c'est qu'ils sont méchants. Mais ici, on est bien, mais là-bas, il y a la guerre partout. Mais t'as vu, c'est des sauvages, nous, on est bien. Ouais, d'accord, mais nous, on est bien, on appuie sur un bouton, il y a 1 million de personnes qui crèvent, alors que le sauvage, il a juste sa flash sur son arc, il peut tuer qu'une personne. Alors, c'est qui le sauvage, c'est qui le civilisé? Il faut se regarder dans le miroir. Alors on juge avec des critères, des concepts qu'on nous a inculqués comme ça. On nous fait croire que la civilisation, c'est le développement économique. Être civilisé, c'est être développé économiquement, c'est vivre bien. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être civilisé, le fait que tu sois développé, que tu aies des avions, que tu aies des navires. Ça ne veut pas dire que tu es civilisé, absolument pas. Une tribu primitive peut être beaucoup plus civilisée qu'un Suisse. Il faut accepter ça, ça n'a rien à voir. C'est des notions scientifiques que la science, elle joue avec.
C'est, ouais. Démasquer les impostures, c'est déjà...
Ouais. C'est déjà bien, déjà ouais. Dans sa tête.
Ouais. Ouais. Avoir cette autocritique, cet esprit critique, cette autocritique...
Mais vraiment être innocent dans son cœur, que tu ouais. sois suisse, que tu sois kurde, que tu sois... Mais être honnête avec toi-même, être ouais. innocent vis-à-vis de toi-même. Préserver ta propre innocence déjà.
Mmh. Et comprendre peut-être la place que l'on occupe, qui est
oui,
très...
Oui, mais si tu comprends, tu l'occupes cette place, ouais, naturellement.
Absolument.
Ça fait partie de la nature du monde, du système du monde, de l'univers.
Absolument. Très bonne conclusion. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Juste peut-être, Ramazan, donc on a dit pour la page Facebook des IWW, y a-t-il un contact pour...
Il y a moi,
mais justement, mais je ne voulais pas livrer ton contact.
Il y a la Société démocratique kurde à Genève.
Voilà. Qui a une page Facebook également
Ils ont une Facebook. Il y a la jeunesse kurde qui ont aussi une Facebook. Ouais. Mais il y en a tellement, on trouve assez facilement. Hein.
D'accord.
On trouve très facilement, si ce n'est pas moi, c'est un autre, etc. Mais voilà, s'il y a... On finit toujours par pouvoir entrer en contact, je veux dire. Et sinon, on a des réunions aussi avec un groupe de Suisses, les incontrôlés.
Les incontrôlés, tout à fait. Fahrenheit 450.
Voilà, etc. Ça peut être par leur intermédiaire, il y a différents moyens, quoi.
D'accord, très bien. Et puis, quoi qu'il en soit, nous, à la radio, on va servir avec de plaisir. Relais le plus avec qu'on plaisir. Peut. Et en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir pris tout ce temps, parce qu'on a fait quand même un long moment. Mais c'est important pour y aller. Je pense que c'est important d'aller lentement et de déconstruire tout ça et de se recréer, de se réinventer, de se re-représenter des choses autrement que ce qui nous est donné à voir. Et comme vous l'avez dit tous les deux, tout au long de l'intervention, ces choses qui sont données à voir, elles sont souvent pour le pire. Et nous, on va essayer de construire des choses pour le meilleur. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon 1er août, qu'on rigole bien un bon coup, et Guillaume Tell et la bonne pomme. Et on se retrouve bientôt pour la suite des opérations. Merci beaucoup et à la prochaine.
Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.
Voilà, nous, on se laisse là pour ce soir. La radio, c'est terminé. Eh bien, on va se laisser avec une petite musique sympa. Ce sera cornes et ses clowns. Ça va extrêmement bien avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Démasquer l'imposture, démasquer ces clowns tristes qui nous font office de caciques. Eh bien, on n'en veut plus de ces dirigeants-là. On n'en a jamais voulu. Et quoi qu'il en soit, eh bien, on va continuer à Libre Radio d'essayer de leur faire mordre la poussière. C'est parti avec cornes. Et non sans rappeler que les podcasts se trouvent sur le site de la radio www.libradio.org. C'est parti.